10h30 aujourd'hui, on avait eu idée de jaser d'immigration, puis on s'est dit, bon, on va aller chercher un immigrant, puis on va aller chercher un avocat qui est spécialisé en immigration, Maître Maxime Lapointe, qu'on aime bien recevoir une fois de temps en temps sur les zones de boulevard. Maître Lapointe qui est là. Bonjour Maître Lapointe, comment allez-vous?
Bonjour, ça va bien, merci de penser à moi, c'est toujours apprécié.
Bon, est-ce que votre travail s'est compliqué à partir du moment où Donald Trump est rentré en fonction? Y a-t-il des gens qui ont eu peur, qui ont décidé d'appeler Maître Lapointe pour s'amener au Québec, au Canada?
Ah, j'ai eu deux demandes, mais c'est pas un gros volume, là, disons. Les gens qui voudraient venir au Canada parce qu'ils ont peur de se faire renvoyer dans leur pays, mais... C'est pas évident si t'es un sans-papier aux États-Unis d'essayer de venir au Canada, puis ton premier réflexe, ça va pas être de contacter un avocat pour bien faire les choses s'ils sont déjà pas en ordre aux États-Unis, là. Ce qui complexifie le travail actuellement, c'est plus le changement de ton du ministère de l'Immigration au Canada, le ministre Mark Miller. Plusieurs réformes, travailleurs étrangers, étudiants étrangers, on coupe, on change les règles en cours de route, on déconstruit l'avion en plein vol, c'est ce que je dis souvent dans les médias, donc... Ça attire plus mon attention.
À chaque fois qu'on vous a reçu en studio, Maître Lapointe, vous me disiez que ça change régulièrement, les règles, c'est extrêmement compliqué, il faut suivre ça. Il y a des programmes, des fois on abolit les programmes, on en invente d'autres. Vous faites comment pour vous tenir à l'affût de tout ça?
Les sites gouvernementaux, l'information est à jour, donc on se renseigne. Avec l'Association des avocats en droit de l'immigration aussi, on a un forum de partage, donc on se relaie les infos. On suit évidemment les médias qui couvrent le sujet, là. Le meilleur moyen, en tout cas du moins, d'apprendre comment faire des dossiers d'immigration, c'est de déposer des dossiers dans la machine gouvernementale puis voir comment c'est traité. Donc, en faisant beaucoup de dossiers, bien, on se tient à jour par la force des choses. Mais c'est pas un sujet qui est très simple quand on veut se lancer dans la pratique de l'immigration. Je fais souvent le parallèle avec la comptabilité, la fiscalité, les impôts. Le Revenu Québec, Revenu Canada, tu leur envoies ta déclaration, il t'envoie un avis de cotisation, il ne regarde même pas ce qu'il y a dedans. À l'immigration, il cherche à te refuser, il cherche à fermer ton dossier. Donc, ça prend vraiment une conformité là, qui est exemplaire.
Ouais, il y a plusieurs façons d'immigrer au Canada, Maître Lapointe. Puis moi, ayant travaillé dans la restauration pendant plusieurs années, j'ai connu des gens qui venaient immigrer ici, dont certains m'avaient raconté que c'est des fonctionnaires du Canada qui avaient été les rencontrer sur le continent africain, entre autres, pour ne pas les nommer, pour leur dire, ben nous, on recherche des gens comme vous, avec les qualifications que vous avez. Puis dans le cas que je vais te parler, Audrey, c'était un médecin, c'était un docteur. Mmh. Et lui avait dit, ben moi, ça m'intéresse d'immigrer au Canada avec ma famille et tout ça, surtout si je peux continuer à faire mon métier. Puis, rendu une fois au Canada, là, les choses s'étaient complexifiées parce qu'il y a les doctorats africains, surtout en médecine.
Ça concorde pas.
Ça ne fit pas nécessairement avec les doctorats du Canada en médecine. Donc, lui a dû retourner à l'Université Laval pour refaire encore des cours. Donc, lui avait été approché dans son pays, mais il y en a d'autres comme Thomas, à qui on va parler dans les prochaines minutes, Maître Lapointe, qui, eux, font leur démarche personnelle pour immigrer, c'est ça?
Oui, ben, il y a deux choses. Le gouvernement fait des efforts pour aller séduire des travailleurs, des étudiants à l'international. On le voit moins là, dans les derniers mois. Le gouvernement a annoncé qu'il allait arrêter les missions de recrutement à l'international pour être cohérent, parce que de l'autre côté, on dit qu'il y a trop d'immigrants, donc il faudrait arrêter de dépenser des fonds publics pour aller en courtiser plus. Mm. Donc, ça faisait déjà, moi, plus qu'un an que je disais au gouvernement qu'il manquait de cohérence là-dessus, donc ils viennent de s'en rendre compte. Pour les étudiants étrangers, les règles ont changé. Le gouvernement fait pas nécessairement des grosses activités, mais il y en avait encore cet automne. On était au Bénin pour aller recruter des étudiants étrangers. Donc, le gouvernement, si vous trouvez qu'il y a trop d'étudiants, de travailleurs, mais peut-être arrêter de faire des démarches de recrutement avec l'argent des contribuables. Mais de l'autre côté, effectivement, il y a des gens qui viennent ici avec un permis de travail, qui peuvent demander par eux-mêmes. Je pense entre autres au fameux permis vacances-travail, le PVT. C'est parfait pour quelqu'un de 18-35 ans de la France, entre autres. Donc, il vient ici, il se trouve un travail, puis après ça, bien, demander la résidence permanente au Québec, il y a des conditions. Actuellement, c'est beaucoup de 2 ans de travail à temps plein dans un emploi qui est considéré comme spécialisé. Le Québec a suspendu des programmes cet automne. Donc, on est vraiment dans une mouvance où le Québec et le Canada veulent moins d'immigrants, veulent resserrer les règles. Ça va de plus en plus difficile pour les gens à se qualifier.
Mettons qu'on essaie de rendre ça simple pour les auditeurs. Comment fonctionne un peu la machine quand tu arrives au Canada, mettons, comme immigrant, là, c'est quoi tes options là, de demande? Là?
Bien, probablement, tu arrives au Canada avec un statut temporaire, là. Donc, que ce soit étudiant, travailleur ou visiteur, c'est un statut qui est donné par le gouvernement du Canada, premièrement, dans lequel le Québec a une certaine compétence pour les étudiants étrangers. Pour les travailleurs, le Québec contrôle un programme sur deux, là, je fais ça simple. Donc, on arrive au Canada avec un permis qui est donné par le Canada pour demander la résidence permanente. Le Québec, lui, sélectionne les gens qu'il veut selon une grille de pointage et ou des critères qu'il veut. Donc, exemple, un niveau de français, une expérience de travail. Donc, le Québec, lui, va donner un certificat de sélection du Québec et ensuite, on lance une demande de résidence permanente au Canada. Le Canada, lui, va regarder les antécédents de santé et de sécurité. Est-ce que tu es un criminel? Est-ce que tu es un risque de santé publique pour le Canada avec un examen médical, certificat de police? Et à la fin de tout ça, on devient résident permanent parce que le Canada a procédé à l'admission. Donc, le Québec fait la sélection selon des critères qui déterminent, le Canada fait l'admission.
Maître Lapointe, pourquoi est-ce que les fonctionnaires sont très clairs quand ils vont donner de l'information, l'exemple sur le continent africain, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, où on dit, ben vous êtes le genre de candidat qu'on recherche pour amener au Canada. Lui, il n'y avait aucune idée qu'il devait revoir sa scolarité, retourner à l'Université Laval. On parle d'un homme qui avait quand même, il était quand même médecin dans son pays. Il arrive ici, 50 ans, déménage toute sa famille, puis là, se fait dire à peu près tout le contraire de ce que le fonctionnaire lui avait dit au départ, c'est-à-dire tu dois retourner à l'école.
T'as-tu pas le goût, tu sais?
Ben, ça a été dur, mais il l'a fait. Puis aujourd'hui, cet homme-là est autour de quoi? 61, 62, et est toujours médecin. Fait que c'est un plus pour notre belle communauté. Mais il n'en demeure pas moins que lui, si on l'avait avisé correctement au départ, il aurait peut-être fait d'autres choix. Est-ce que c'est toujours clair quand on s'adresse à nos immigrants?
Ça dépend c'est qui l'interlocuteur, là. Des fois, ça peut être des gens dans le pays, des firmes de consultants là, qui ne sont pas réglementés, qui vont faire une démarche avec le client, là, qui vont faire organiser, exemple, un séminaire dans un hôtel, faire la promotion. Donc, eux, ils n'ont pas toujours nécessairement l'information la plus pertinente puis à jour, là. Les règles changent. Quand c'est le gouvernement du Québec, généralement, ils n'ont pas la bonne information non plus parce qu'ils comprennent mal l'écosystème du Canada. Donc, ils vont parler du petit bout qu'ils connaissent, mais c'est incomplet. Et le Canada, ça, c'est rare qu'ils font des missions de recrutement, là, le gouvernement fédéral. Là, des fois, il y a des sous-organismes, exemple, qui vont aller parler du programme Expérience internationale Canada en France. C'est très ciblé. Mais l'information est quand même accessible sur les sites du gouvernement. Puis dès qu'on parle d'un ordre professionnel, évidemment, c'est sûr qu'il n'y a pas une reconnaissance un pour un. On ne peut pas reconnaître un médecin africain sans lui faire repasser, ne serait-ce que des cours en déontologie, là. Puis donc, c'est l'ordre professionnel qui a ses propres règles. Et là, ça devient de plus en plus compliqué quand on s'enfonce avec un ordre professionnel.
Maître Lapointe, vous êtes un spécialiste en loi de l'immigration. Est-ce que vous allez régulièrement en procès? Puis comment ça se passe en procès? Qu'est-ce qui se passe? Puis pourquoi il y a autant de plaintes?
Bien, pas vraiment de procès, là. Dans ce que moi je fais, c'est très administratif. On dépose un
Ouais.
dossier, mais si le dossier est refusé, puis on va aller en cour, on va aller en cour fédérale pour demander un contrôle judiciaire. On va demander au tribunal de venir se substituer à la décision administrative en disant qu'elle est déraisonnable. La porte d'entrée est assez petite.
Ouais.
Les tribunaux reconnaissent que le gouvernement est expert en immigration. Donc, un haut niveau de déférence. Donc, ça veut dire les tribunaux vont dire l'administration gouvernementale, Immigration Canada ou Immigration Québec a rendu une décision, ils sont experts dans leur domaine. Il faut que la décision soit déraisonnable pour que le juge dise ah, ça ne marche pas. Dans ce cas-là, ils vont renvoyer la décision au décideur gouvernemental pour dire ça m'apparaît déraisonnable. Exemple, vous n'avez pas pris connaissance du passeport qui était dans le dossier, vous avez refusé sans traiter le passeport, mais c'est déraisonnable. Donc, mais ce n'est pas une décision qui est facile à changer. Il y a des critères. Là, je rentre dans la jurisprudence, là. Il y a des décisions qui disent où les tribunaux vont intervenir, mais où ils ne vont pas intervenir. Donc, bref, il y a des dossiers en cour fédérale. Au Québec, il y a des dossiers des fois en cour supérieure pour faire intervenir les tribunaux. C'est assez rare parce que le statut au Canada, comme j'ai dit plus tôt, c'est déterminé par le Canada. Donc, suivre le gouvernement du Canada, c'est en cour fédérale. Et la marge de manœuvre pour faire renverser une décision est assez petite.
C'est quoi le ratio de gens qui sont refusés versus acceptés? T'sais, vous disiez tantôt que souvent le gouvernement cherche des bibittes finalement là, pour que ça
Ouais.
fonctionne presque pas, là.
Il y a deux types de refus, là. Il y a les refus où les gens ne se qualifiaient pas. Exemple, je viens de finir une consultation ce matin et la personne a eu un refus parce qu'on demandait pour se qualifier à la sélection permanente comme le cas de Thomas, votre prochain invité. Dans ce programme-là, on demandait pour les travailleurs 2 ans de travail à temps plein. La personne a déposé après 1 an et 8 mois. Donc, le Québec a dit, ben, on vous refuse, vous ne vous qualifiez pas. Donc, des fois, les gens font mal leur dossier. On le voit aussi, je le vois 3 fois par semaine, des gens qui essaient de prolonger leur permis de travail. Ils arrivent, exemple, avec un permis vacances-travail de 2 ans, un PVT. Ça ne se prolonge pas. Les gens le prolongent par eux-mêmes, pensant que c'est facile. Le gouvernement du Canada dit, ben, ce permis-là ne se prolongeait pas, tu l'as prolongé, donc tu ne peux plus travailler depuis hier. C'est vraiment difficile. Quand on a une lettre de refus, tu ne peux plus travailler. Puis ramener un dossier sur le droit chemin, c'est très difficile. Donc, les taux de refus, ça dépend. Est-ce que c'est un vrai refus et genre l'administration est trop sévère? Est-ce que c'est quelqu'un qui a mal fait ses papiers? Ça, il y en a beaucoup. Donc, ça devient difficile de faire une certaine proportion. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un resserrement autant au Québec qu'au Canada. On cherche le problème dans le dossier. On veut refuser les dossiers. Donc, on n'est pas là pour dire, ah, oh, comment on pourrait approuver le dossier? Quel document il manquerait pour approuver? On est plus en train de dire, quel document fait en sorte qu'on va refuser le dossier? Quelle coche est mal cochée qui fait en sorte que la... Donc,
C'est ce qui fait que
il y a
c'est
une
aussi long
approche qui est
aussi,
vraiment
là.
négative. Pardon?
J'ai dit, c'est ce qui fait, j'imagine que c'est aussi long aussi comme processus, là.
Oui, ben, le gouvernement du Québec, lui, dans sa fameuse cible de 50 000 immigrants, c'est-tu trop, traite les dossiers en 6 mois pour arriver à la fin de l'année, dire à la population, ben, vous voyez, on n'en a pas trop pris, mais il y a beaucoup plus de gens qui veulent immigrer au Québec que le fameux 50 000, mais le Québec essaie de contingenter un peu, donc en faisant traîner les dossiers. Immigration Canada, eux, en tout temps, ils ont 2 400 000 dossiers à traiter, que ce soit des visas de visiteurs, des permis d'études, résidence permanente, des travailleurs. Et ils ont toujours 1,3 million de demandes en retard par rapport à leurs normes de service. Donc, au Canada, c'est un ministère de l'immigration qui est totalement ingérable. Il y a tellement de gens qui veulent venir visiter le Canada, travailler, étudier, demander la résidence permanente. De plus en plus, ils utilisent l'intelligence artificielle pour traiter les dossiers en 2 secondes. Ça va identifier les motifs potentiels de refus. Exemple, une personne de Russie de 20 ans qui n'a jamais voyagé, qui veut venir visiter le Canada pour voir son petit ami, ça rentre direct dans la case des refus. Puis l'agent qui est en charge du dossier est capable de refuser ça à vitesse grand V. On peut refuser 1 000 demandes à la fois quand elles sont dans la liste des refus. Donc, il y a des millions de demandes pour le Canada, le Québec un petit peu moins, mais les deux, on essaie quand même de trouver des problèmes. C'est ça l'enjeu.
Okay. Mais qu'est-ce qui fait que quand les migrants arrivent ici, ils choisissent peut-être plus les provinces qui sont à l'est qu'à l'ouest? Est-ce qu'on est plus, il y a plus de laxisme ici en ce qui a trait aux migrants? Est-ce que le panier de services est tellement bien garni que ça intéresse un peu plus les migrants?
Ben, ça va finir par changer parce que oui, effectivement, mettons, exemple, je recule de 15 ans. Le Québec avait ses programmes très populaires parce qu'il y avait accès, exemple, à un programme de gens d'affaires pour les immigrants investisseurs, les travailleurs qualifiés. Il y avait moins de marketing, donc la demande était assez forte. L'offre suffisait à la demande. Et tranquillement, les autres provinces ont demandé aussi de pouvoir sélectionner des travailleurs selon des critères à déterminer. Et ça a créé un engouement, mais il n'y a pas beaucoup de rétention dans les provinces des Maritimes. Les gens, dès qu'ils sont résidents permanents, essaient d'aller vivre dans les grands centres, Toronto ou Vancouver, entre autres. Et là, le gouvernement du Canada est en train de resserrer les allocations de dossiers qui permettent à chaque province de traiter parce qu'ils se rendent compte que finalement, le bordel est pogné, là, les gens ne restent pas, c'est beaucoup des histoires qui n'ont pas d'allure. Donc, oui, historiquement, dans les dernières années, oui, c'était attrayant de passer par les programmes des provinces maritimes ou peut-être du Manitoba, mais là, les portes se referment. Il y a 3 millions d'immigrants temporaires actuellement au Canada qui ont un permis d'études, permis de travail, et il y en a 1,2 million dont le permis va venir à échéance cette année. Et le gouvernement a tellement resserré les règles que ça va être difficile de prolonger le permis et demander la résidence permanente, on a baissé à 485 000 le nombre de nouveaux résidents. Donc, il y a 3 millions de personnes qui aimeraient devenir résidents permanents au Canada, mais il y a juste 480 000 places, puis ça va baisser dans les prochaines années parce que la population demandait au gouvernement de baisser les volumes d'immigrants. Donc, ces immigrants-là, ben, est-ce qu'ils vont repartir dans leur pays, le cœur brisé? Est-ce qu'ils vont demander l'asile pour essayer de se protéger pendant 2, 3 ans, demander la protection du Canada? C'est ça l'enjeu de 2025, à mon avis.
Est-ce qu'on a énormément de gens qui sont en situation illégale au pays? Est-ce que une ville refuge comme Montréal, si on fait le recensement là, des gens qui sont là de façon illégale, est-ce que c'est extrêmement élevé?
Bon, on n'a pas le chiffre, évidemment, parce que les gens demeurent dans la clandestinité, mais un, il y en a beaucoup. Je donne un exemple, un employeur vient me voir en 2020, il me dit, ah, j'ai ce travailleur-là du Guatemala, je voudrais l'embaucher. À l'époque, en 2010, le travailleur, c'était une limite de 4 ans de permis de travail. Donc, il a fait son 4 ans, puis il n'est pas reparti. On était rendu en 2020. Il faisait 6 ans que la personne se promenait avec une pile de 20$ puis un élastique, là. Donc, j'étais quand même surpris. J'avais jamais vu ça. Puis j'en vois pas beaucoup. Comme je dis, évidemment, les dossiers clandestins, ils ne font pas affaire avec des avocats, là. Donc, des gens comme ça, il y en a beaucoup. Mais ce que je viens de vous dire, c'est que cette année, il va en avoir encore plus. Des gens dont le statut expire, ou, exemple, le permis d'études est refusé. Le renouvellement de permis de travail. Moi, j'en vois 10 par semaine, des gens qui perdent leur statut. Je dis, je suis un parmi d'autres, là. Je suis un artisan dans le domaine de
On dirait que je trouve
l'immigration.
ça triste.
Oui, puis il y a des dangers d'esclavagisme aussi. Les gens vont tout faire pour rester au pays, pour pas retourner là-bas. Ils sont en situation irrégulière. Donc, au lieu d'avoir le salaire minimum, ils vont avoir moins que le salaire minimum, puis ils vont peut-être
Je
faire
comprends que
travailler.
les
Ouais, mais ça,
portes.
là-dessus, tu sais, là-dessus, je suis un peu mal à l'aise. Dans le sens que, là, 2 semaines, il y avait un article dans les médias, justement, d'une Haïtienne qui était venue ici travailler dans une ferme au Nouveau-Brunswick pendant 3 mois. Finalement, elle avait mal dans le dos. L'employeur ne voulait pas la libérer pour aller voir le médecin. Elle a décidé de partir à Toronto puis de travailler illégalement. Puis là, elle plaide pour des droits des sans-papiers, mais à base, elle était autorisée au Canada pour 3 mois dans une ferme. Donc, elle a pris la décision de s'en aller puis de devenir illégale. Donc, j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui interprètent les règles d'une manière qui n'est pas conforme, là. Donc, les étudiants qui viennent me voir me disent, bon, j'avais un permis d'études pour l'Université Laval. Finalement, c'était trop cher, j'ai lâché l'école, puis finalement, je fais un DEP, puis le Québec m'a refusé pour prolonger mon statut parce que j'ai étudié pour la mauvaise école. Donc, tu sais, faut faire attention, là. Ça prend beaucoup plus de pédagogie envers les immigrants. Si vous venez ici dans une case, vous restez dans cette case-là. Vous êtes ici avec un permis de travail. Vous n'avez pas le droit du jour au lendemain de faire des études. L'inverse est aussi vrai. Et si vous êtes ici en visiteur, ben vous n'avez pas le droit de venir travailler ou d'étudier. Puis normalement, vous n'auriez pas le droit non plus de venir accoucher. Il y a un tourisme d'accouchement au Canada. Les gens arrivent enceintes de 8 mois et demi, disent, ah, je venais visiter mon beau-frère. Finalement, j'ai mal au ventre. Hey, j'étais enceinte, je ne savais pas. Donc, on a besoin beaucoup plus de pédagogie, sans dire qu'on a besoin de répréhension puis d'expulsion, mais reste que les gens font n'importe quoi, puis ça devient difficile à défendre.
Y a-t-il trop de règles ou selon toi, au contraire, on fait bien les choses?
Moi, je pense qu'il y a suffisamment de règles, mais ils ne sont pas assez suivis. Les gens les lisent pas. On le voit moins dans les travailleurs étrangers parce que l'employeur paye la démarche et un permis de travail qui est attaché à un employeur, mais on essaie de surveiller ça. Mais les étudiants étrangers, c'est triste, là, les gens, surtout ceux qui se sont fait vendre un parcours d'immigration. Exemple, en Inde, dis, bon, mais tu vas appliquer dans tel programme, puis tu vas avoir la résidence permanente, puis donne-moi 50 000 $ US, puis ça va bien aller. Puis finalement, les règles changent, puis les gens se qualifient plus. Il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer. Donc, ça revient à ce que vous me disiez en début de l'entrevue. Il faut aller sur les sites gouvernementaux. Les règles sont claires. Sur le site, on dit, vous n'êtes pas obligé de faire affaire avec un avocat en immigration. Vous ne devez pas faire affaire avec un consultant qui n'est pas réglementé. Donc, c'est aux gens à se documenter un peu mieux. Mais des fois, c'est trop beau pour être vrai. La mode est rendue sur les réseaux Instagram, TikTok. Les gens disent, moi, je te donne la résidence permanente en 2 mois, pas de problème. Tu sais, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent pas vrai.
Oui, mais souvent, ces gens-là sont tellement désespérés qu'on
Exact.
dirait que tu te crées de
Ouais.
l'espoir, là.
En même temps, c'est tellement compliqué qu'il vaut mieux donner la suite des choses à des gens qui sont en règle puis qui sont des spécialistes. Comme vous, Maître Lapointe, c'est toujours un plaisir. Je vous laisse partir parce que je sais que vous avez une grosse journée. Puis on se reparle peut-être dans les prochaines semaines.
Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt.
Salut.
Maître Maxime Lapointe, qui est spécialiste en droit de l'immigration. Pour le rejoindre, mlaimmigration.com, mlaimmigration.com. Après la pause, on a le plaisir de retrouver un de nos anciens
Je suis
collègues.
tellement énervée,
Ouais,
là.
il est venu ici de nous gosser
Oui.
pendant des années. Il nous
Oui.
passait tout le temps des commentaires en français désagréables.
Les maudits
Il est
Français.
devenu par la suite des choses spécialiste de la F1 à la radio. Il
Oui.
faisait très bien son travail, soit dit en passant. Il y a des auditeurs qui m'écrivaient pour me dire, ben, un entre autres, un de mes chums qui me dit, Yann, tu peux-tu demander s'il veut aller prendre un café avec moi? J'aimerais ça y parler de F1. C'est un passionné et tout
Oh,
ça.
il est
Fait que c'est un
sympathique.
gars qui a fait énormément réagir lors de son passage chez Leclerc Communication, mais aussi à la radio. Son nom, c'est Thomas Perrin. Donc, il est en studio déjà depuis une couple de minutes. Il y a même des auditeurs qui ont reconnu Thomas en disant Thomas a maigri. Fait qu'on va peut-être parler d'une cure
Hey!
minceur aussi, qui
Oui,
sait?
on
Mais on
a-tu
va.
des trucs, début d'année?
On va surtout parler d'immigration parce que Thomas vient de la Martinique
Exact.
et veut immigrer dans une place où il fait moins 25 au grand vent.
Exact, de façon permanente.
Finalement, on va peut-être parler de maladie mentale, mais ça, c'est une autre affaire. 10h50, vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021. 88-971-1021.
Du 7 au 16 février, Away dehors avec qualité d'esprit, contactez Cabinet Cuisine.
Away dehors! Bon, je sais que là, c'est pas évident, mais pendant le temps du Carnaval de Québec, il va y avoir plein de choses à faire. Et vous savez que cette année, encore une fois, le Carnaval de Québec revient en collaboration avec l'Auto-Québec. C'est 6 soirées sur la scène de l'Auto-Québec, sous le dôme, avec nul autre que Mariana Mazza, que j'adore, et ses invités qui vont être là pour faire un spectacle. Il va y avoir des tunes, des jokes, Soulja qui va être là, Sarah Dufour, donc peut-être Denis Gravel va aller faire un tour. Abstract, que je ne connais pas, Karma Chameleons, quel beau band qu'on a à Québec, Karma Chameleons. Si vous avez les chances, si vous avez la chance de les voir ce soir-là, je vous le dis, ça va rester dans vos souvenirs très longtemps. Et le 12 février, ben, c'est la fameuse zone New Country Weekend Radio 91.9, qui est notre station sœur. J'imagine que Gab Marino va aller faire un tour. Tout ça et une panoplie d'autres activités qui t'attendent du 7 au 16 février au Carnaval de Québec. L'effigie, 39$ plus taxes dans les couches participants ou encore sur carnaval.qc.ca. Let's go! Va t'en chercher une.
Vous êtes débordé avec vos soumissions.
Boy! Des belles retrouvailles. Thomas Perrin qui est en studio avec nous autres. Vous l'avez entendu sur les ondes de Boulevard 102.1 avec la belle gang de Rage Against le matin. Il était venu faire un tour aussi sur l'heure du midi pour nous jaser. Il faisait des chroniques F1. Salut mon ami, comment ça va?
Bien, bien. Je suis pas venu pour vous parler de Lewis Hamilton en rouge.
Non.
Pas cette fois-là.
T'es sûr que t'as pas une envie? Là? T'es pas quelque chose non, que tu veux cracher?
Non, c'est correct, okay. C'est correct.
Là, il y a des gens qui t'ont reconnu sur Twitch. Ils ont dit Tabarouette, Thomas a donc bien fondu. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as-tu pris de la crème Budweiser? Comme dans le temps?
Non, j'ai décidé de mieux manger et de bouger plus. Il n'y a pas de secret miracle là, pour de vrai.
Ah, calique, je voulais perdre du lait, je m'attendais à comme une pilule magique. Là.
Non, Ozempic, t'as-tu pris Ozempic?
Non.
T'as-tu fait brocher l'estomac?
Moi, protéines.
C'est tout?
C'est protéines, puis on se rend compte que le métabolisme finit par reprendre son rythme après en bougeant et en mangeant bien protéiné.
Puis là, t'as perdu combien de poids? J'en pose des questions. Hein, on va parler d'immigration, inquiétez-vous pas.
Je suis rendu à 95 livres. Je dis pas ça parce que le sang est pas pété, fait que je ne dis pas que j'ai perdu 100 livres.
T'as-tu déjà levé 100 livres?
Bonne question. Oui.
C'est
ben
ça
oui,
que
ouais.
Tu traînais.
Ouais.
Va au gym, là, prends 100 livres, lève-le, puis c'est ça que tu traînais, c'est complètement capoté. Je parlais avec une fille, là, 3 semaines, qui était déçue parce qu'elle avait perdu juste 22 livres en un an et demi. J'ai dit, prends...
C'est bien déjà, là.
Prends chaque brique de beurre, là. Ça, c'est une livre.
Ouais.
Mais en 22... Ça, c'est ce que tu traînais en poids sur toi en matière graisseuse.
Ouais. Mais livre de beurre, c'est une bonne... c'est parce qu'au niveau de la taille aussi, au niveau de parce que tu sais, du gras, c'est super volumineux.
Fait qu'elle a comme réalisé que c'est un exploit qu'elle avait réalisé c'est un an et demi plutôt que d'avoir constamment une déception, d'avoir juste perdu 22 livres.
Moi, tu vois, je suis fière. Je peux pas me comparer à ton 95 livres, mais là, depuis le début de l'année, je suis rendue à 7.
7 de perdu.
Je suis quand même contente.
Mais non, mais c'est toujours bien. Il n'y a pas de comparaison qui tienne ou quoi que ce soit.
Non, mais ça, c'est important ce que tu dis parce que souvent, c'est ça. Quand on jase de ça avec les auditeurs, les gens aiment bien nous partager, veulent pas leurs exploits personnels. Puis que ce soit un 5, un 10, un... parce qu'il ne faut pas juste parler de poids. Là. Si tu t'entraînes, tu vas prendre du poids aussi naturellement.
Mais de toute façon, c'est un chemin personnel.
Oui,
ça ne sert à rien de se comparer
fou,
avec les autres.
Là.
Parfait. Hey, on parle d'immigration, Thomas Perrin. Juste rappeler un peu ton histoire. Tu viens de la Martinique.
Oui, c'est ça. J'ai vécu juste avant de venir ici, j'ai vécu 4 ans en Martinique. Puis j'ai fait mes démarches pour m'en venir ici parce que en étant en Martinique, qui est une île des Antilles, pour resituer pour ceux qui sont peut-être moins au courant, même si je suis sur le territoire français, si je dois aller faire mes études après, il fallait forcément que je parte, que je prenne l'avion, que je déménage. Donc la question s'est posée, ben, on a le Québec à côté, on a la France d'un autre côté, vers où je m'en vais? Puis j'avais beaucoup entendu parler du système des cégeps et du fait que ben, après 3 ans, en général, on est capable de partir dans le milieu du travail, dans des techniques, dans des choses comme ça.
Mais t'aurais pu rester en Martinique?
Martinique, pour les études, ça aurait été plus compliqué. Il y a beaucoup moins de choix au niveau des études. Il y aurait eu plus de chances qu'il faille que j'aille, par exemple, à Paris, Bordeaux, Lyon, pour faire des universités si j'avais voulu pousser.
Parce que tu as toujours trippé sur la radio, c'est ce que tu voulais faire aussi.
La radio en France, c'est compliqué. La plupart du temps, il faut faire des études en journalisme, après faire des spécialisations, des stages. Ça peut prendre pour de vrai. Alors, c'est sûr que ça dépend par quelle porte on rentre, mais ça peut prendre 5, 6, 7 ans si on passe pas par des écoles privées qui sont moyennement reconnues et où on n'est pas sûr d'avoir des débouchés.
Parce que j'ai eu une élève au collège qui venait de la Martinique. Martinique. Elle est venue faire son cours ici, puis après ça, elle a été embauchée en Martinique. C'était une native de là, là. Puis donc, son chemin était peut-être un peu plus facile que le tien. Mais elle est toujours en Martinique. Elle n'est pas rendue à Québec à moins 25.
Non, oui, toi, tu veux rester, c'est ça l'affaire. Parce que là, en 2018, tu as fait ta demande pour venir faire tes études.
Exactement.
Tu avais un permis de travail relié à ça?
En fait, oui, quand on a un permis d'études, souvent, on a un permis de travail qui nous permet de faire un 20 heures semaine pour pouvoir travailler un petit peu. Donc, j'ai fait, en général, je travaillais dans le milieu de la restauration ou des choses comme ça. Après, derrière ça, une fois qu'on a son diplôme, là, le chemin est assez facile. Pour une fois qu'il est clair de la part de l'immigration, ça va. Une fois qu'on a un permis de travail, enfin, qu'on a eu un permis d'études, qu'on a eu son diplôme, on fait ce qu'on appelle un PTPD, donc un permis de travail post-diplôme. Donc là, en général, ça nous donne un permis de travail de la durée des études qu'on a faites. Donc moi, j'ai fait 3 ans d'études, donc je me suis retrouvé avec un permis de travail de 3 ans. Et là, j'arrivais à échéance justement le 23 janvier, fait qu'on est en plein dedans, là, on est il y a une semaine. Le 23 janvier, j'arrivais à échéance de ce fameux permis de travail. Et une fois qu'on en arrive là, la vraie question, c'est qu'est-ce que je fais ? Où est-ce que je m'en vais ? Est-ce que j'essaye d'avoir un autre permis de travail ? Est-ce que je veux rester à long terme et je m'en vais vers une résidence permanente ?
Parce que si tu tombes en situation irrégulière, ça peut te causer des problèmes.
Oui, vraiment. Ben, c'est surtout qu'après, ça fait comme une grosse croix rouge sur ton dossier où on sait que tu as fait de quoi de pas correct. Ou alors, sans que ce soit une grosse croix rouge, c'est qu'il faut être capable de l'expliquer très clairement et d'être capable de dire pourquoi tu t'es retrouvé dans ces situations-là. Moi, par exemple, quand j'ai fait une des demandes de CSQ, donc dont parlait Maître Lapointe tout à l'heure, quand on fait une demande de résidence permanente, on a besoin de faire une demande de CSQ. Le seul problème, c'est qu'étant donné que c'était pas très clair, ou alors que moi je m'étais pas assez renseigné, là je remets pas tout sur l'immigration, j'avais fait une demande de travailleur, alors que j'étais plus dans le cadre de l'étudiant, j'avais pas assez d'heures pour faire la demande de CSQ travailleur. Ce qui fait que cette demande m'a été refusée. Encore aujourd'hui, il va falloir qu'à chaque coup que je fasse des demandes, j'explique pourquoi cette demande m'a été refusée. Parce que une demande qui est refusée, c'est comme une croix rouge sur un dossier.
Oh mon Dieu, fait qu'il faut pas que tu te trompes, parce que chaque erreur que tu fais, tu t'enfonces.
En plus de coûter de l'argent, de faire perdre du temps, ça met une croix rouge sur le dossier.
T'as-tu parlé un peu avec des fonctionnaires?
Pas des fonctionnaires, j'ai pas mal communiqué sur des groupes, justement Facebook, comme le parlait Maître Lapointe, j'ai rencontré des consultants qui te font vivre monts et merveilles en te disant que tu vas tout avoir dans 2 semaines, tu comprends vite que clairement...
Finalement, t'as fini dans un bar de danseuse de la truc, tu te dis « Hey, c'est pas ça que je voulais! »
6 000$ en moins!
Pourquoi vous mettez de brassière?
et étant donné qu'en fait, même dans ces groupes-là, rien n'est clair, parce qu'une fois ce fameux permis de travail terminé, il y a tellement de possibilités que... rien n'est clair pour la personne. Et moi, c'est ça que je déplore le plus, c'est qu'à aucun moment on est guidé pour savoir vers où s'en aller derrière. Ça devient super compliqué. Donc, soit il faut avoir un avocat.
Tu parles français, là.
Je parle français.
Imagine les gens qui parlent pas français.
Ben, sans me vanter, je suis quand même quelqu'un qui comprend bien. Je pense que je suis capable d'aller me renseigner. Et malgré ça, en fait, je me heurtais à une peur de faire une erreur parce que j'avais l'impression que ça resterait dans mon dossier. Donc, je me suis dit, ben, rendu là, il faut que j'aille voir un professionnel pour pouvoir m'aider dans ces démarches. Surtout que j'étais assez serré dans le temps. J'avais que 2 mois. Donc c'est pour ça que j'ai fait affaire à Maître Lapointe pour ma demande de résidence permanente.
Mais là, t'as fait quoi, là? Parce que ça fait comme une semaine que t'es comme illégal, entre guillemets, ou quoi?
J'ai fait fin décembre une demande de résidence... En fait, au début janvier, j'ai fait une demande de résidence permanente. Et dans le cadre d'une résidence permanente, il y a 2 solutions. En temps normal, quand l'immigration va bien, ce qui n'est pas le cas en ce moment, on a la possibilité de faire un permis de travail transitoire. Ça, c'est vraiment le best du best. Ça veut dire qu'on fait un permis de travail qui est là jusqu'à ce qu'on ait notre résidence permanente. Et ça a permis juste de faire le lien entre les deux. Donc on reste en gros quasiment sur le même statut qu'on était avant, juste ça prolonge pour le temps de la demande de résidence permanente. Le seul problème, c'est que les délais de traitement sont tellement longs que l'accusé de réception de la demande de résidence permanente n'arrive pas assez vite. Donc pour moi, dans mon cas, c'était trop serré niveau timing, donc on a été obligé de faire une demande de permis de travail fermé avec mon employeur. Donc ça veut dire que jusqu'à ce que j'ai une réponse pour ma résidence permanente, je ne peux pas travailler pour qui que ce soit d'autre que l'employeur que j'ai actuellement.
Ailleurs qu'avec lui.
Hmm. Exactement.
Et encore là, tu sais, des fois ça peut être inhumain. Là. Toi, tu as la chance d'avoir un bon employeur, là, mais tu peux tomber sur un employeur qui est plutôt merdique, qui connaît un peu les règles, puis qui va jouer sur ces règles-là pour te faire travailler plus.
Parce que là, tu n'as pas le choix.
Sans une rémunération supplémentaire, parce que là, tu n'as pas le choix de travailler pour lui. C'est tous ces trucs-là. Puis, tu sais, je te parlais d'esclavage tantôt, là. Mais moi, c'est ma peur, à un moment donné, qu'on utilise des gens qui sont en situation irrégulière puis qu'on agisse avec eux comme ce que ça apparenterait être de l'esclavage. Tu sais, des gens qui sont pas rémunérés pour les heures faites. Tu sais, des histoires d'horreur, à un moment donné, il va en arriver. Là. Mm. C'est clair et net qu'il va en arriver.
Mais moi, je le connais parce que j'ai des contacts dans le milieu de l'agriculture et en ce moment, c'est quelque chose qui fait beaucoup parler des travailleurs étrangers, entre autres, par exemple, du Guatemala, qui sont avec des permis de travail fermés. C'est quelque chose qui est en train de se regarder beaucoup en ce moment parce qu'on se dit, est-ce que ces permis de travail fermés vont aider ces gens-là? Parce que c'est des gens qui arrivent, qui parlent pas la langue et qui se retrouvent avec un employeur qui sait très bien que ses employés ne peuvent pas travailler ailleurs. Donc, il sait très bien qu'il peut profiter d'eux. Fait que ça fait beaucoup parler dans le milieu de l'agriculture, comme je connais du monde, je le vois, sur le fait de faire attention à ces fameux permis de travail fermés et que le gouvernement est en train de regarder peut-être d'arrêter les permis de travail fermés pour les travailleurs étrangers comme ça quand ils arrivent.
Au moins, on dénonce. Là, on a vu des histoires d'horreur des dernières années où tu as justement des propriétaires de peu importe là, de fermes ou de champs ou de, qui abusaient vraiment de leurs travailleurs étrangers. Puis au moins, on décrit ça. Là, on dirait que ça me rassure que ça devient public. Mais là, mettons, au moment où on se parle, ça veut-tu dire qu'il y a quand même une possibilité dans le futur que ta résidence permanente soit refusée?
Oui, puis moi, en fait, c'est ça qui me fait extrêmement peur. Parce
qu'à ce moment-là, tu ne peux pas en faire une deuxième, t'es out.
Ben, c'est que, oui, c'est ça, en fait. Ça dépend de où j'en suis, parce que j'ai quand même ce fameux permis de travail fermé qui est en cours. Fait que si je l'ai, tout va bien, je peux au moins rester pendant la durée de ce permis de travail-là que je vais avoir. Mais c'est sûr que moi, ce qui me fait très peur, c'est ça, parce que moi, je ne me vois vivre nulle part ailleurs qu'au Québec à l'heure actuelle. Mmh. Donc, en fait, l'immigration me tient un peu, concrètement, parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas avec mon immigration, je suis obligé de retourner en France. Alors, c'est sûr que je suis très loin d'être dans une mauvaise situation si je retourne en France. Hein? Je ne compare pas avec des gens qui ont une situation où ils sont obligés de partir de chez eux réellement. Mais c'est sûr que moi, au quotidien, je ne me vois pas vivre ailleurs qu'au Québec.
Ouais, puis on va y venir, Thomas. Puis je trouve ça intéressant d'avoir tes yeux avec nous en studio parce qu'on peut pas savoir à quel point on est bien ici si on va pas voir comment ça se passe à l'extérieur, si on voyage pas au travers le monde, tu sais. La sécurité qu'on a ici n'a pas de dollars associés à ça. Cette sécurité-là qu'on a, on est vraiment chanceux de l'avoir, puis espérons que ça continue pendant des décennies encore, puis jusqu'à l'éternité, mais on est chanceux d'habiter ici. On est peut-être protégé par le climat, ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui regardent comment ça se passe ici, les bancs de neige et tout ça, puis ils disent non, on va continuer à faire ma petite affaire de criminel, je sais pas moi, en Italie. Mais c'est vrai qu'il faut sortir de l'extérieur. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse tant, à part les filles, qu'est-ce qui t'intéresse tant au Québec?
Je suis pas Maxime Larouche, moi, là.
Il faut pas mélanger les gars, là.
Ouais, Max, il est occupé, c'est un site. D'après moi, ben, il est pas. Je le sens anxieux. J'ai dit, lâche pas, Max, Tinder 2 va sortir. Puis là, il va y avoir de la nouveauté.
Max devrait se servir de ça pour créer son entreprise. Moi, je ferais ça. Je serais intelligente, je deviendrais entrepreneur. Il n'y a rien qui marche dans le monde du dating. Je crée ma propre façon de faire.
Ça pourrait être ça. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi?
Ben, moi, pour de vrai, je suis tombé amoureux de la place. Moi, j'aime beaucoup le Québec, que ce soit le climat, que ce soit les gens. Pareil, ce sentiment de sécurité est phénoménal. Moi, pour en parler avec beaucoup de femmes qui ont vécu en France et qui vivent aujourd'hui au Québec, c'est incomparable.
Qu'est-ce qu'ils vivent les femmes en France?
En France, même dans une petite ville qui n'est pas si grosse que ça, sortir le soir, t'es pas à l'aise, tu vas voir quelqu'un, ou alors tu fais semblant d'être au téléphone, tu fais en sorte de tout le temps changer de trottoir pour être sûr de pas croiser personne, parce qu'il y a un attrait qui est beaucoup plus pervers quand même autour de la femme en France.
Qu'est-ce qui fait en sorte que les Français ont accepté qu'il y a des restaurants où on n'accepte pas les femmes?
Ça, par contre, j'étais pas au courant, tu vois.
Ouais. Il y a des secteurs en France où, des rues surtout, où il y a des bars et des restaurants où les femmes ne sont pas admises. Rien, et les Français tolèrent ça, en sachant très bien qu'à cet endroit-là, c'est cette communauté-là, c'est leurs affaires, puis ils font les affaires. Les cités aussi, qu'est-ce qui fait en sorte que on tolère ça, ces fameuses cités-là, les policiers n'y vont pas?
La France est victime de ce qu'elle-même a créé. C'est qu'en fait, le problème, c'est que quand tu reviens par rapport aux cités, là, quand tu reviens après la guerre d'Algérie en France, il a fallu qu'on accueille ces Algériens qui ont pris le bord de la France pendant cette guerre-là. Et on ne savait pas où les mettre. Donc on leur a créé des cités pour leur donner un logement et les partir. La plupart du temps, déjà, c'était des logements qui étaient assez délabrés ou qui n'étaient pas phénoménaux. Et en plus de ça, ben, ces gens-là sont restés là parce qu'ils parlaient la langue, mais à moitié. Parce que oui, en effet, en Algérie, on parle français, mais on parle aussi l'arabe. Ouais. Donc forcément, ils se retrouvaient beaucoup moins dans leur milieu. Et après, derrière ça, ça a créé ce qu'on appelle des ghettos. Parce qu'ils se sont retrouvés tous entre eux. Donc aucune intégration, aucune immission dans la vie française. Et donc ces gens ont continué à vivre leur vie algérienne en France. Et à la base, c'est vraiment parti de là. Donc la France a créé des ghettos pour ces gens-là. Et maintenant, se plaint des ghettos qui sont en place. Mais le problème, c'est que c'est la France elle-même qui les a créés.
Mais tu sais, à plus petite échelle, c'est pas du tout la même chose. Mais quand on va en Floride, il y a des ghettos de Québécois. Là,
oui,
parce que les gens s'assemblent avec des gens qui ont à peu près la même culture, la même langue. C'est moins compliqué.
C'est un peu normal.
Si tu as besoin d'une gardienne, tu as ta voisine que tu connais qui vient du Saguenay. Puis là, le Saguenay, c'est du bon monde. vendre. Fait que ouais. C'est sûr, quand il y a juste du bon vin au Saguenay, on est entouré de ça ici à la station. c'est plus facile pour eux, mais les phénomènes de ghettoisation en Europe, ils ont de grosses difficultés. Moi, c'est le fait que le droit des femmes recule dans certains quartiers en France. Oui. Moi, ça me tue épouvantable. Puis le fait qu'on accepte ça, c'est ignoble. Puis le sentiment de sécurité, comme tu l'as dit, au Québec, on le ressent beaucoup.
Il y a quelques années, je travaillais avec, avec une fille, justement, qui venait de France. Puis ce qu'elle m'expliquait, c'est que même la base, c'est-à-dire prendre soin de ta santé, mettons, aller au gym, il y a des femmes qui ne veulent pas le faire, qui ne veulent pas que leur corps se transforme par peur, justement, des réactions de l'homme. Puis elle, ça faisait partie des raisons pour lesquelles elle était passionnée d'entraînement physique. Elle voulait étudier là-dedans, elle voulait se développer là-dedans au niveau de son métier. Puis elle avait décidé de venir ici pour cette raison-là parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité de faire ce métier-là, je vais le dire, là-bas. C'est capoté quand tu y penses, là.
Mais ça en devient toxique, en fait. Ouais. C'est une personnification, c'est une objectification, en fait, plutôt.
Si ça marche pas ici, Thomas Perrin, si les fonctionnaires ne reçoivent pas ta candidature pour t'intégrer comme un jour citoyen canadien, soit tu prendre ton pack-sac puis passer dans le bois, là, aller voir le gros orange l'autre bord?
Non, ça, c'est vraiment pas prévu. Enfin, en tout cas, je me verrais pas dans ce milieu-là. Mais après, le plus simple qui reste pour
parce que
certains...
dans le Maine, ils ont à peu près le même climat que
ici. Ouais, ouais, non, ça y ressemble. Mais non, à la limite, la solution, ça finit par être le tour du poteau pour essayer d'avoir un autre permis de travail. Donc, okay. Le tour du poteau, c'est-à-dire de sortir du Canada puis de re-rentrer avec tous ses papiers en main et de faire devant le douanier à la douane, justement, de demander de faire les papiers en live. Ça peut être aussi une solution. Le seul problème, c'est que ça aussi, ça reste dans le dossier parce que c'est pas tout à fait le chemin normal. Donc, forcément, il y a une trace qui reste dans le dossier avec ce fameux tour du poteau.
Tu pourrais refaire une demande éventuellement de permanence, même si tu ne l'as plus.
Pas de permanence, mais ce serait une permis de travail. Donc, encore une fois, ça reste sur du temporaire.
Couple d'années ici.
Ça resterait sur du temporaire et je sais qu'il y en a certains qui l'ont fait très pressé dans le temps. On va sortir du Canada, on re-rentre par les douanes américaines et en fait on fait donc ça c'est pour ça que ça s'appelle le tour du poteau là parce qu'on sort pour rentrer et on fait une demande directement devant le douanier directement.
Moi je pense que j'ai une solution pour toi mais c'est la pire des solutions que je peux t'offrir mais je pense que je vais te le dire.
Je t'écoute.
Te marier.
Oh,
mais je sais même pas à quel point ça pourrait aider. C'est sûr que ça peut aider, mais il faut avoir, de ce que j'ai compris, il faut avoir un bail de 2 ans
prends
avec
Maxime
la personne.
Prends Maxime Larouche, c'est accepté, là, tu sais. Prends Max Larouche, il va vouloir t'aider.
Mais de ce que j'ai compris, pour que ça aide vraiment, ou alors ne serait-ce qu'être conjoint de fait, il faut avoir 2 ans de bail ensemble, okay. Pour pouvoir dire qu'on est ensemble, que l'autre est un minimum. Et puis ça fait que du coup, la personne en question qui est reliée à toi, si tu fais des bêtises, elle aussi, elle peut être impactée par ça.
Tu as déjà pensé?
J'y ai déjà pensé avec mon meilleur ami, pour être très franc, parce qu'en fait, on vit ensemble. On a vécu ensemble pendant 2 ans et demi quand on était à Jonquière.
Fait que tu te serais marié avec ton meilleur ami pour
pas forcément se marier, mais conjoint de fait. On aurait pu, sur les papiers, essayer d'aller jouer sur le fait qu'on était conjoint de fait. J'y ai pensé.
Là, les fonctionnaires arrivent, là, t'es obligé de donner des petits bisous pour faire croire que c'est ton copain.
Le point principal, si je l'ai pas fait, c'est parce que je trouvais que c'était trop dangereux, encore une fois.
Oui,
et que du coup, je me retrouve avec le risque de me dire, si je me fais mettre dehors, wow. Là, il y a vraiment un X sur mon dossier.
Mais t'observes quand même le désespoir que ça dégage, c'est ça qui est plate, là.
Écoute. Mais c'est ça, c'est le pire qui peut arriver là, pour rester ici, c'est te marier, mais je te souhaite la meilleure des chances. Okay? On t'apprécie beaucoup, tu reviens quand tu veux, cher ami.
Avec plaisir.
Je sais que tu avais une grosse journée aujourd'hui, puis tu as dû déplacer des rendez-vous, mais merci beaucoup d'avoir fait partie de l'Open Mic. Nous autres, on s'arrête, 11h14, si vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021, 88-971-1021, et si jamais il y a une milliardaire de 96 ans qui voudrait...
Un jeune homme...
Marier,
oui,
un jeune homme...
Exotique.
Qui a perdu 96 livres quand même
Je vais vous partager son profil Facebook, là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose.
Veuillez communiquer avec nous. 11h14, on va. Marceau le soir.